Bonjour à tous. Aujourd'hui, en effet, à propos d'un téléfilm qui lui est consacré ce soir et demain sur France 2, la dernière des grandes favorites des rois de France, Madame de Pompadour. Ainsi donc, vous réunissez tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire. Pompadour, vous embellissez la cour, le Parnasse et Cythère. Voltaire. D'histoire. Le 25 février 1745, dans le grand salon d'Hercule du château de Versailles, Louis XV célèbre le mariage de son fils avec l'infante d'Espagne. Mais le jeune couple n'intéresse personne. Celui que l'on attend, c'est le roi. Il est à l'époque si populaire qu'on le surnomme le bien-aimé, et que 6 mois plus tôt, quand il était tombé malade, on avait brûlé des cierges dans tout le royaume pour qu'il se rétablisse. Si populaire aussi qu'on lui pardonne de collectionner les maîtresses, et personne n'est vraiment surpris de le voir ce soir-là s'incliner devant une nouvelle conquête. Elle est très belle, elle a 24 ans, et s'appelle Madame Lenormand d'Étiole. Pour tous les invités, ce n'est qu'une aventure de plus, et personne ne peut encore imaginer que cette bourgeoise, née Jeanne Poisson, sera bientôt marquise. Ni que, pendant 20 ans, auprès de Louis XV, elle sera la femme la plus puissante de France. Mais ce 25 février 1745, le roi ne pense qu'à une chose, la faire entrer dans son lit.
Sire, c'est une bourgeoise, une roturière.
Vous ne me faites pas rêver.
Elle a reçu une éducation parfaite, exemplaire, digne d'une princesse. Mais attention, elle est entre les mains des banquiers. On pourrait bien à travers elle vouloir atteindre les plus hautes marches du pouvoir. Sa mère, Madame Poisson, voudrait bien la placer. Son père est banni. Exilée pour banqueroute. Elle est mariée. Elle a un enfant. Elle fréquente Marivaux Fontenelle. Et ainsi que le dit Monsieur de Voltaire, elle est bien élevée, sage, charmante, remplie de grâce et de talent.
Mais vous qui l'avez approchée, parlez-moi de ses yeux.
Ses yeux sont plus jolis que grands, mais d'un feu, d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à une autre femme.
Je la veux.
Hélène Levert, bonjour.
Bonjour.
C'était l'extrait d'un téléfilm qui passera ce soir et demain sur France 2. Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, une femme étonnante à laquelle vous avez vous-même consacré une belle biographie chez Perrin. C'était une des innombrables favorites des rois de France, hein, qui ne les cachait pas d'ailleurs. À l'époque, pour un roi, avoir une maîtresse, c'était pas du tout un objet de scandale.
Oh, absolument pas. C'était une habitude et aux yeux du public, eh bien, c'était aussi un signe de virilité. Tout était permis. Au monarque, du moment que c'était un monarque puissant qui assurait, eh bien, disons, le bonheur de ses sujets. Ça, c'était plus difficile, bien entendu. Mais enfin, on n'avait jamais considéré que c'était scandaleux de voir un monarque entouré de maîtresses. Cela dit, Louis XV n'en a pas eu des quantités. Il a été fidèle dans l'infidélité, je dirais plutôt, parce qu'il avait eu avant Madame de Pompadour et les trois sœurs Nel, qui appartenaient à la même famille. Et Louis XV n'était pas un chasseur de femmes. Il aimait que les femmes lui tombent dans les bras. C'est très, très différent. Louis XIV aimait la conquête et Louis XV aimait être conquis. Ce sont deux tempéraments de rois très différents.
C'est-à-dire, la place de favorite était extrêmement convoitée. Louis XV était d'abord un bel homme, mais surtout
oui,
être la favorite du roi de France, officielle, évidemment, ça rapportait des tas d'avantages.
Des quantités d'avantages. Bon, d'abord, l'amour du roi, ce qui était un privilège extraordinaire, car le roi est un personnage quasi divin, et puis là on a affaire à un roi qui est particulièrement beau, et c'est un homme aussi qui est à consoler, parce que il est très introverti, il est enfermé en lui-même, et on se demande souvent ce qui peut le distraire. Il faut toujours l'arracher à cette mélancolie qui est la sienne, donc c'est un attrait De plus, ce n'est pas Louis XIV, le soleil éclatant, mais c'est au contraire le soleil noir de la mélancolie, Louis XV. Alors, bien sûr, il y a tout le côté conquête pour une femme, car il y a des femmes qui aiment conquérir. Et puis, d'autre part, alors, c'est une situation qui n'est pas définie par... Elle est définie par l'usage, mais elle n'est pas définie juridiquement comme sont la plupart des charges à la cour de France. Cela permet, si la maîtresse a la personnalité nécessaire et si vraiment elle est reconnue par le roi, ça permet à la maîtresse de pourvoir un certain nombre de nominations et d'obtenir pour ses fidèles eh bien un certain nombre d'avantages.
Alors la personnalité, elle l'a. La beauté aussi, personne n'en discute, c'est une femme splendide. Mais alors, elle a un énorme défaut, Evelyne Levert, c'est qu'elle n'est pas aristocrate, elle n'a pas de particules. Elle s'appelait Jeanne Poisson avant de devenir Madame d'Étiolle. Elle était roturière, très proche, fille en plus d'une femme très légère. Hein, on ne sait pas très bien qui était son père à elle. Elle portait le nom de Poisson, mais en réalité...
Enfin, elle aurait pu en porter un plus joli, ça aurait été mieux, parce que Poisson, c'est pas très chic quand même.
Et très liée... On l'a entendu dans cet extrait de film, et c'est vrai, aux banquiers. Oui. Ça inquiétait un petit peu l'entourage de Louis XV.
Oui, parce que, de toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les banquiers subventionnaient, bien sûr, le roi et toutes les entreprises du royaume. Et les banquiers avaient besoin d'avoir une maîtresse, d'avoir quelqu'un qui leur fût dévoué auprès du roi, car c'était là le meilleur moyen d'avoir accès au roi. Et les banquiers avaient été fort bien en bon terme avec la précédente maîtresse qui était la duchesse de Châteauroux, et ils attendaient le moment de mettre la jeune Madame d'Étiolle dans le lit de Louis XV, parce que Madame d'Étiolle était leur protégée, et c'était en quelque sorte donnant-donnant. On vous met dans le lit du roi, et en revanche, eh bien, vous nous aiderez eh bien, à être toujours les banquiers du roi et avoir un certain nombre d'avantages.
Alors tout ça donne le sentiment qu'il s'agit vraiment d'une liaison arrangée, hein, oui. Sans aucun sentiment, purement charnel, pas du tout. Il se rend compte donc en 1745, effectivement, le roi arrive à ses fins assez vite, mais alors ça devient une véritable histoire d'amour, Evelyne Levert.
Oui,
ça c'était plutôt rare.
Oui, parce que quand même, la jeune Madame d'Étiolle est amoureuse de ce monarque qu'elle a vu passer dans
Madame d'Étiolle, parce d'Étiolle, que Jeanne Poisson s'est mariée avec Monsieur d'Étiolle.
Jeanne Poisson, s'est mariée avec Monsieur d'Étiolle. Elle lui a fait déjà franchir. Elle appartient à ce qu'on appelle le monde de la finance. C'est un monde qui est assez décrié. Et elle est riche. Elle vit dans un milieu qui est plutôt, on dirait aujourd'hui, un milieu d'artistes et d'intellectuels, au milieu des financiers. Et elle n'aime pas son mari. Elle n'a, semble-t-il, jamais aimé personne, et elle a fait quand même une fixation sur la personne du roi. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés. Probablement, c'est le valet de chambre qui est le bel valet de chambre du roi qui a été l'intermédiaire entre Madame d'Étiolle et le roi. Elle est venue chez le roi et ils ont une liaison secrète avant qu'elle ne devienne officielle, cette liaison. Et c'est un coup de foudre réciproque. Elle est folle du roi et le roi est folle d'elle.
Au point d'ailleurs que le roi l'a fait venir, ce qui n'était pas courant, à Versailles, hein, pour y habiter, pour y apprendre les usages du château et recevoir justement un titre de marquise.
Alors, les usages de la cour. On ne dit pas un cadeau, mais...
Un présent.
On ne dit pas un louis d'or, mais on dit...
Un louis en or, bien évidemment.
Parfait. On ne dit pas champagne, mais...
Vin de champagne.
Parfaitement, parfait. Madame d'Étiolle, si.
Ah, monsieur l'abbé, en servant madame la marquise de Pompadour, vous servirez le roi.
Madame la marquise de Pompadour.
Pompadour. Cela rime avec je veux vous faire la cour. Madame, j'ai demandé à ce qu'on vous cache mon départ pour la guerre. Je penserai à vous à chaque instant.
Et c'est ainsi que Madame d'Étioles est devenue la marquise de Pompadour, sans que personne, d'ailleurs Évelyne Levert à Versailles, n'oublie qu'elle s'appelait Jeanne Poisson. Et elle, l'accueil est désastreux. Le roi l'accueille à bras ouverts, mais pas du tout l'aristocratie.
Non, la noblesse de cour est ulcérée, parce que cette charge, si on peut dire, de maîtresse officielle du roi, était réservée aux femmes de la cour. Et justement, eh bien, les femmes de la cour sont folles furieuses et tous les hommes aussi, parce que la maîtresse est le canal des grâces. Donc, Madame Poisson, c'est véritablement une infamie que d'avoir pris une maîtresse aussi mal née, enfin une maîtresse qui n'est pas née.
Alors, très mauvais accueil également des enfants de Louis XV.
Alors, les enfants vont l'appeler très vite Maman Putain, et les enfants, c'est-à-dire le dauphin, qui est l'héritier du trône, et les filles de Louis XV, mesdames, eh bien, sont ulcérées de voir leur père s'abaisser avec une femme qui n'est pas qui n'est pas du monde de la cour. Et de toute façon, ils sont fort dévots dans l'ensemble, et le fait que leur père est une maîtresse, eh bien, de toute façon, les choque profondément. Il n'y a que la reine.
Oui, ça c'est paradoxal. Accueille plutôt bien Marie Leszczyńska, la femme polonaise de Louis XV, qui lui a donné 10 enfants, accueille plutôt bien sa rivale.
Oui, beaucoup moins mal qu'on aurait pu le penser, parce que les précédentes maîtresses, qui étaient les sœurs Nel, qui appartenaient, elles, à une grande famille qui se targuait de remonter aux croisades, eh bien, avaient à l'égard de cette reine polonaise, qui n'était pas de grande maison, c'était pas une infante, c'était pas une archiduchesse, elle n'appartenait pas à une grande famille, c'était une famille polonaise relativement modeste, du moins pour un roi de France, et les sœurs Nel avaient traité la reine avec beaucoup de hauteur. Et pour Marie Leszczyńska, Madame de Pompadour, eh bien, autant celle-là qu'une autre.
C'est sa formule.
Ouais. Elle est résignée, elle est plus âgée que le roi, elle ne veut plus être l'épouse charnelle du roi après 10 enfants, et elle c'est une femme résignée. Par conséquent, elle admet mieux Madame de Pompadour qu'une autre.
Elle l'admet même très près, puisque Madame de Pompadour sera dame du palais de la reine.
Plus tard.
Et la reine, en tout cas, qui va défendre la Pompadour contre ses propres enfants.
Regardez, mère! Regardez! Le roi l'a fait revenir tout exprès pour nous narguer! C'est moi qui lui ai dit de rappeler Madame de Pompadour. Ce n'est pas Madame de Pompadour! C'est la Poisson! Pourquoi avez-vous fait cela? C'est incompréhensible! On dit qu'elle lui donne des conseils, qu'elle prend des décisions. Madame, elle dirige la France. On dit même qu'ils ne couchent plus ensemble.
À la Pompadour !
À bas la Pompadour !
À la Pompadour !
À bas la Pompadour !
Que me reproche-t-il ?
Les Parisiens vous accusent de les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent.
Je vais leur parler.
Surtout pas, madame. Il en va de votre vie. Vite, cocher !
Tentez, madame, de rendre le roi fou de vous. L'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun pour eux. Comprenez-vous? Mais depuis quelque temps, marquise, vous voulez gouverner en tout. Laissez-moi dire avec franchise que ce n'est pas de notre goût. Comprenez-vous? Vous nommiez deux éminences et des abbés tout votre sou, que vous régentiez les finances, après tout le soldat s'en fout. Comprenez-vous? Parce qu'un beau soir à Versailles, vous avez joué les touches à tout. Nous avons perdu la bataille et moi je n'ai plus qu'un genou. Comprenez-vous? Du sang de mes chers camarades, un ruisseau rougit tout à coup. Aucun poisson ne fut malade, car les poissons avalent tout. Comprenez-vous? Mais quand nous n'aurons plus de larmes, Quand nous serons à bout de tout, nous saurons bien à qui, madame, il nous faudra tordre le cou. Comprenez-vous ?
Gabriel Yacoub, comprenez-vous, une chanson anonyme du 18e siècle, du temps de la Pompadour, contre la Pompadour. C'est ce qu'on appelait, ces pamphlets extrêmement cruels qu'on appelait les poissonnades, Évelyne Levert.
Oui, alors bien sûr, on les appelle poissonnades parce qu'elle est née poisson, et évidemment ça a donné lieu à quantité de jeux de mots de plus en plus féroces, et la chanson qu'on vient d'entendre est relativement douce par rapport à d'autres poèmes, d'autres libelles qui sont d'une cruauté extraordinaire.
Si vous permettez, j'ai sous les yeux, j'ai tiré dans votre livre,
oui.
Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, une petite bourgeoise fait de la cour un taudis, le roi malgré son scrupule pour elle follement brûle. Cette catin subalterne insolemment le gouverne, ou encore un peu plus loin, autrefois de Versailles nous venait le bon goût, aujourd'hui la canaille règne et tient le haut bout. De quoi s'étonne-t-on? N'est-ce pas de la halle que nous vient le poisson?
Oui, alors ce sont des textes qui sont très durs, et attention, c'est qu'ils entraînent aussi des libelles et des pamphlets aussi violents contre Louis XV lui-même. On parle de Ravaillac, il y a un poème au mâne de Ravaillac, et on dit de Louis XV que de toute façon il mériterait d'être assassiné.
Il y aura une tentative
en 1757. Il y a alors Damien qui a lancé un coup de couteau dans l'estomac du roi, et on a cru que le roi allait être assassiné, mais en fait le couteau n'avait pas pénétré bien loin. Donc il y a un climat délétère.
Alors on lui reproche à la Pompadour ses dépenses, ses châteaux. Le roi la défend envers et contre tout. Quel était son rôle en fait auprès de lui?
Alors elle a un rôle extraordinaire. C'est tout d'abord, elle est comme une épouse. Il y a cette passion qui existe et qui dure à peu près 5 ans. C'est une passion très réciproque. Et Madame de Pompadour a été elle-même obligée d'abandonner son rôle de maîtresse parce qu'elle avait une santé extrêmement fragile et elle avait des troubles gynécologiques qui l'empêchaient d'être la maîtresse qu'elle rêvait d'être. Si bien qu'elle a compris que pour continuer à régner sur le roi, il fallait abandonner la situation de maîtresse proprement dite, mais devenir petit à petit ce qu'elle a appelé l'amie nécessaire. Et là, elle a continué à avoir avec le roi des relations extrêmement tendres et aussi une amitié extrêmement forte qui durera jusqu'à la fin de sa vie, si bien qu'elle a tenu 20 ans. Alors, qu'est-elle? Elle est la femme qui aime le roi, qui lui donne des conseils d'ordre intime, et d'autre part, elle est sa conseillère. Et elle le conseille absolument pour tout, en politique comme dans le reste de sa vie.
Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain Monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle.
Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité.
Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi.
Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas. Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas. Et le royaume de France non plus.
Oui, tu me fais mal.
Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ses idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi et pour notre enfant.
Jamais.
Alors si Madame de Pompadour exaspère la cour, c'est qu'elle défend les philosophes, justement.
Oui, oui, bien sûr. Alors je crois qu'elle n'a pas de scène avec Louis XV qui ressemble à celle-ci. Elle ne le tutoie pas et elle ne le tense pas de cette façon-là. Elle a essayé de défendre l'encyclopédie auprès de Louis XV. L'encyclopédie, c'était en quelque sorte la somme de toutes les connaissances, mais il y avait Monseigneur Boyer qui avait dit à Louis XV qu'il y avait là des idées dangereuses. Donc Louis XV avait fait interrompre la publication de l'encyclopédie. Et avec beaucoup de tact et beaucoup de nuances, Madame de Pompadour a permis avec le concours de Malesherbes, qui était le directeur du cercle de la librairie, elle a permis que la suite de l'encyclopédie fût publiée. Elle a défendu également Montesquieu, elle a défendu Voltaire, qui était son ami, mais elle savait très bien jusqu'où elle pouvait aller, et elle ne pouvait pas aller contre la volonté du roi. Elle était là pour soutenir le roi, pour essayer de temps en temps d'infléchir sa pensée, mais elle ne pouvait pas s'opposer à lui avec autant de violence, si l'on peut dire.
Sa défense des philosophes montre que c'était une femme de culture. Elle va le montrer d'ailleurs. Ça a été un véritable mécène, Evelyne Neveu.
Absolument. Alors, elle a exercé son mécénat par l'intermédiaire de probablement celui qui était son père, le Normand de Tournehem. Et Tournehem est devenu, grâce à elle, directeur des bâtiments du roi, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, ministre de la Culture. Alors, Tournehem, par son intermédiaire, a fait le catalogue des tableaux du roi. On a été voir dans toutes les réserves quel était le cabinet, en quelque sorte, des tableaux du roi, avec une exposition permanente des collections royales. On a créé un jury pour qu'il y ait un salon tous les deux ans.
Elle a protégé tous les grands artistes,
et elle a compris qu'on était à une période intermédiaire, il y avait, l'art allait s'assagir, on était en plein dans le style qu'on appelle le style rocaille. Elle adorait ce style rocaille, mais ça ne l'a pas empêché de soutenir des artistes qui allaient vers une plus grande épuration des formes. Et par exemple, parmi les architectes, elle a soutenu Soufflot, Gabriel, bien entendu.
Soufflot, il faut rappeler, pour l'église Sainte-Geneviève, le Panthéon.
Hein. Alors, voyez,
Gabriel, c'est pour l'école militaire, c'est
absolument
elle qui les a fait construire.
Alors, c'est elle qui a voulu qu'on fasse construire l'école militaire. Elle a copié Madame de Maintenon, qui avait eu Saint-Cyr, et elle a fait faire l'école militaire. Et elle a compris que l'art devait être mis au service de la nation. C'était un grand débat qui avait lieu en ce 18e siècle. Et l'art devait plus être uniquement au service de la gloire du souverain, mais aussi pour la nation. Et puis, elle est à l'origine, c'est elle qui a voulu que l'on crée la fameuse manufacture de Sèvres. Et elle a protégé tous les artistes, peintres, et également tous les grands événements. Il faut pas oublier que l'ébénisterie du temps de Louis XV et de la marquise de Pompadour, c'est le sommet du raffinement, en particulier avec Migeon, avec Eubène qui est l'ébéniste du fameux bureau de Louis XV que l'on peut toujours voir à Versailles.
C'est ce qu'on appelle le style Pompadour.
Ben écoutez, on appelle ça à tort le style Pompadour, parce que pas plus qu'il y a un style Marie-Antoinette, c'est parce que c'est une époque, c'est le style Louis XV. Le style Louis XV a connu un certain nombre d'évolutions.
Alors, mécène Madame de Pompadour se mêle aussi de politique, et même de politique internationale.
Elle donne son avis sur tout. La guerre, les ministres, les arts. Le roi n'a plus à penser. Elle le fait pour lui. Je crains qu'en quelques sourires, elle ne défasse ce que les ministres ont eu tant de peine à agencer.
Trois repas. Cette situation devient intolérable. Une putain ne peut pas gouverner la France. Enquêtez, surveillez. Ne quittez pas le roi.
Le roi!
Regardez-la se pavaner au bras du roi. Se prendrait-elle pour la reine?
Elle tient déjà lieu de premier ministre. Avec la signature de ce traité ce soir, elle obtient ce qu'elle voulait, être l'égale de Marie-Thérèse d'Autriche.
Ce qui distingue Madame de Pompadour de toutes les autres favorites, à part peut-être Madame de Maintenon, c'est qu'elle a joué un rôle politique considérable auprès de Louis XV, Évelyne Levert.
Oui, alors Madame de Maintenon n'a pas joué de rôle politique, je crois.
Qu'elle l'a influencé dans sa dévotion,
oui,
sa bigoterie,
oui,
dans les dernières années
du
règne.
Mais le rôle de Madame de Pompadour est beaucoup plus important. Seulement, il faut bien voir une chose, c'est qu'elle soutient toujours Louis XV dans les idées qu'il a, lui. Elle ne va pas à l'encontre de ses idées.
C'est pas une marionnette. Hein,
c'est pas Louis XV. Louis XV n'est pas une marionnette, mais elle le soutient. Et ça, c'est très important, parce qu'il a besoin. C'est un homme qui a besoin d'être perpétuellement soutenu. Alors, la volonté de renverser les alliances, c'est-à-dire de se rapprocher de l'Autriche, alors que l'on était plutôt en France admiratif de Frédéric II de Prusse, l'idée vient de l'Autriche et elle est parfaitement admise par le roi. Que demande-t-il à Madame de Pompadour? Il lui demande de recevoir chez elle, en sa présence, les envoyés de l'impératrice qui se réunissent avec les diplomates français. en sa présence, certes, mais elle ne dit rien et elle ne dira jamais rien.
Et Villeneuve va quand même déboucher sur une guerre désastreuse, la guerre de 7 ans.
Oui, mais on ne peut pas dire que ce soit elle qui soit responsable.
Non, mais enfin, disons qu'elle a joué un rôle, qu'elle ne l'a pas découragée. En tout cas, c'est une guerre par laquelle, il faut le rappeler, la France a perdu tout de même, mais le Canada, l'Inde.
Ça a été un bel échec.
En politique intérieure aussi, elle va jouer un rôle énorme, ne serait-ce que par son pouvoir de nommer ou de faire destituer des ministres.
Des ministres, mais elle a fait aussi la carrière de Choiseul.
Oui. Bon, qui du cardinal de Bernis.
Du cardinal de Bernis d'abord, et de Choiseul ensuite. Il me semble que c'est plus important Choiseul que Bernis. Parce que, puisque vous parliez de l'alliance, l'alliance avec l'Autriche, c'est quand même Bernis qui en est l'artisan, bien sûr, avec le roi et avec la marquise. Et quand Choiseul trouvera les textes de l'alliance, il pensera que c'est une erreur monumentale, mais il sera obligé de continuer ce qui a été fait. Mais c'est Louis XV qui est l'initiateur de ces projets-là, et pas Madame de Pompadour. Je répète, elle ne fait que le soutenir.
Alors, elle va mourir en 1764, à l'âge de 42 ans, de tuberculose, poursuivie jusqu'au bout par ceux qui la détestaient, notamment le fils de Louis XV, et malgré le chagrin de son père.
Sire, nous savons tous que vous souffrez de la fin prochaine de la marquise.
Dieu est maître de nos destinées.
Il est de mon devoir de vous rappeler le scandale que serait la mort d'une roturière au palais. Le protocole l'interdit.
La marquise nous aura accompagnés pendant 20 ans dans notre intimité. Elle aura le triste privilège de mourir comme nous à Versailles.
Cela ne se peut. Souhaitez-vous donc nous outrager? Notre mère ne saurait tolérer pareil outrage.
Mon fils, ne parlez pas en mon nom. Vous n'en êtes pas digne.
Alors c'était une des dernières scènes du film de ce soir, du téléfilm de ce soir. C'est vrai que la marquise de Pompadour n'a pas été enterrée à Versailles.
Ah, enterrée à Versailles, personne n'a été enterrée à Versailles. Elle est morte. Elle est morte de maladie à Versailles. À Versailles, on pouvait guère mourir que de crise cardiaque violente, mais personne. Il n'y avait que les princes, il y avait la famille royale qui mourait à Versailles, de maladie. Et Madame de Pompadour est morte comme une princesse, en quelque sorte, dans son appartement. Tout de suite après, on l'a transportée dans son hôtel particulier qui était à Versailles. Et la cérémonie des obsèques, bien sûr, personne de la famille royale n'y assiste. Mais d'ailleurs, le roi...
Même pas Louis XV.
Mais non, c'est impossible. Parce que Louis XV n'assistait jamais aux obsèques, même aux obsèques de ses enfants. Mmh. Ainsi, le voulait le cérémonial de la cour. Donc, il est sur son balcon et il voit, il sort sur son balcon, il fait froid, il pleut et il voit passer de loin le cortège funèbre et il paraît qu'il pleure, ça a été raconté et il a dit voilà les seuls honneurs que j'aurais pu lui rendre.
Il se consolera vite, hein, il y aura Madame du Barry quand même peu de temps après. Peut-être qu'elle a joué un rôle moins important.
Oui,
c'est un peu la dernière grande maîtresse royale, Madame de Pompadour. Louis XVI n'aura pas petit-fils de Louis XV car l'horrible garnement qu'on a entendu est mort avant son père. Et donc c'est le petit-fils de Louis XV, Louis XVI qui va régner, mais alors lui n'aura pas de maîtresse.
Non, il n'aura pas de maîtresse et c'est Marie-Antoinette qui endossera les fautes que l'on reprochait aux maîtresses. Parce que les maîtresses, c'était les fusibles qui pouvaient sauter.
D'où leur utilité. Est-ce que justement, en contribuant peut-être au discrédit, à l'impopularité de Louis XV, lui qui était très populaire au début de son règne, n'a pas accéléré la révolution qui se produira peu de temps après, 25 ans plus tard?
Non. C'est ce franchement qu'on a souvent dit. Oui, mais enfin, vous savez, il y a l'anecdote et puis il y a les réalités du royaume.
Qu'est-ce qui reste d'elle aujourd'hui à part ce qu'on appelle le style Pompadour?
Mais c'est pas le style, c'est le mécénat de Madame de Pompadour et elle est symbolique de cette époque-là qui est la plus grande époque que nous ayons pour les arts et en particulier pour les arts et l'ameublement.
Peut-être le film aussi de ce soir. Vous l'avez vu,
le film c'est un film qui est tout à fait charmant avec un scénario qui prend des libertés avec l'histoire, mais je crois que c'est impossible de faire autrement.
Hélène de Fougerolles dans le rôle.
Elle est ravissante, elle joue très bien.
Pompadour. Vincent Pérez aussi qui est très bon dans le rôle de Louis XV et puis je crois Charles de Turquem dans le rôle de
Marie.
Ah,
elle est parfaite, elle est absolument parfaite.
Pour en savoir plus, en tout cas, je recommande Evelyne Levert la lecture de votre livre Madame de Pompadour, publié aux éditions Perrin. À lire également Le goût du roi, Louis XV et Marie-Louise O'Murphy de Camille Pascal aux éditions Perrin, et puis deux ouvrages de Philippe Valode, publié aux éditions de l'Archipel en librairie à partir de demain. Elles ont fait la France et roi, reine et favorite de l'histoire de France. Vous avez pu entendre des extraits du très bon téléfilm, donc Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, qui sera diffusé ce soir et demain soir sur France 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.